Aujourd'hui, dans l'écume des pages, nous recevons Philippe Forest. Donc, Philippe Forest, écrivain français, qui depuis les années 90 a publié de nombreux romans et essais. Donc, les premiers chez Gallimard, les seconds aux éditions Cécile Defaux. Mais plutôt que de séparer ses romans et ses essais, il semble au contraire judicieux de souligner la continuité qui les unit, puisqu'une même réflexion s'y déploie autour de la question de l'expérience du réel, considérée, je cite, comme impossible, c'est-à-dire la prise de conscience d'une vérité du monde qui tient potentiellement en échec la parole, et qu'il s'agit malgré tout de parvenir à penser et à exprimer. Cette réflexion est intimement liée chez lui à un événement survenu dans sa vie en 1996, à savoir la mort de sa fille âgée de 4 ans d'un cancer, expérience d'où partent et à laquelle reviennent chacun de ses romans. Or, le troisième d'entre eux, Sarina Gara, paru en 2004, propose, je cite encore, un détour par le Japon pour pouvoir une nouvelle fois penser cette catastrophe personnelle. Depuis, Philippe Forest entretient un dialogue très riche avec la littérature japonaise, dialogue relancé à l'occasion des événements de Fukushima. Et c'est sur ce dialogue que nous allons entreprendre de l'interroger aujourd'hui.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Bonjour Monsieur Philippe Forest, merci
Bonjour.
D'avoir accepté de répondre à mes questions. Donc avec vous, je voudrais aborder aujourd'hui plus particulièrement la question de votre rapport à la littérature japonaise, et ce donc dans la perspective en général de penser à la catastrophe, donc d'abord personnelle, puis collective avec ce qui s'est passé en 2011 à Fukushima. Hier, il y avait à l'ouverture des assises l'entretien avec Kenzaburo Oe. C'est vous qui avez présenté l'auteur pour cette occasion. Vous avez lu un discours dans lequel vous avez rappelé votre admiration pour lui, l'importance qu'il avait pris dans votre œuvre. Et vous avez évoqué également la première rencontre avec lui en 99, alors que vous étiez invité à la Villa Kujoyama à Kyoto. Donc c'est de ce séjour que vous avez tiré la matière de Sarina Gara. Enfin, à l'époque, Oe avait rompu toute relation avec la France à cause de la question de la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique, décidée par Jacques Chirac. Et vous avez été le premier intellectuel français à renouer le dialogue avec lui. Alors si je commence par la question du nucléaire, vous me voyez venir, c'est bon, évidemment parce que l'année dernière, vous avez publié un recueil d'articles sous le titre « Retour à Tokyo », dans lequel vous prolongez ce dialogue avec Oe notamment, mais aussi avec d'autres auteurs japonais, donc dans la lignée de Sarina Gara. Un dialogue qu'entre-temps vous avez poursuivi avec d'autres essais, notamment « La beauté du contresens ». Vous mettez en exergue de ce recueil une phrase de Oe, « Mais il y a eu Fukushima », qui indique que la catastrophe oblige à reprendre une réflexion déjà entamée. Et donc ma première question sera justement en quoi cette série d'événements qu'on résume sous le nom de Fukushima, parce que bon, ça demande sans doute de distinguer le tremblement de terre, le tsunami, la catastrophe de la centrale. Donc en quoi cette série d'événements vous a-t-elle obligé à faire précisément retour sur ce dialogue ?
C'est-à-dire les choses se sont passées comme ça, et comme vous l'avez raconté. Hein. Donc en 99, j'étais à Kyoto dans le cadre de la résidence d'écrivains et d'artistes qui est proposée par la Villa Kujoyama. Et moi, je m'intéressais à l'œuvre de Oe, mais pour des raisons qui étaient tout autres que politiques à la base. Et il se trouve que je me suis fait, comme ça m'est arrivé depuis pour d'autres écrivains ou artistes que j'avais envie de rencontrer, je me suis fait en quelque sorte missionner par la Nouvelle Revue Française, qui à l'époque était dirigée par Michel Brodeau, pour demander un entretien à Kenzaburo Oe, sans savoir s'il me l'accorderait ou pas, puisqu'en effet, depuis quelque temps, il se tenait à distance de la France, et on peut même dire en effet qu'il avait rompu les relations qu'il avait avec ce pays. Et lorsque je me suis retrouvé moi-même à la tête de la NRF, donc quelques années plus tard, et que le Salon du Livre de Paris a choisi de se consacrer au Japon justement, dans l'après-coup de Fukushima, ça m'a semblé naturel de solliciter à nouveau Oe pour un grand entretien qu'il accorderait à la revue. Et en fait, je n'ai pas vraiment décidé de mettre l'accent sur Fukushima, c'est que je me suis rendu compte en constituant... je n'étais pas retourné au Japon. Hein. Je pense que je ne suis pas retourné au Japon, je crois, entre 2008 et 2012. Donc, en 2012, je n'avais pas été au Japon depuis Fukushima. Et je me suis rendu compte, d'abord en constituant cet ensemble de textes pour la NRF, et ensuite, quand je suis allé au Japon quelques mois plus tard, quand je suis revenu au Japon quelques mois plus tard, je me suis aperçu qu'il était devenu absolument impossible de parler d'art, de littérature et de la vie tout simplement sans faire porter l'accent sur cet événement-là auquel Oe lui-même a accordé une importance de vraie césure puisqu'il le dit souvent. Alors il le dit tellement souvent que ça en devient presque un sujet de plaisanterie, mais il n'arrête, depuis que je le connais et même avant, il n'arrête pas de dire qu'il va arrêter d'écrire, et donc il est devenu un auteur de plus en plus prolifique à mesure qu'il insistait sur le fait que son œuvre était derrière lui. Et donc enfin, une fois de plus, à l'occasion de Fukushima, Oe a dit « Cet événement m'interpelle d'une telle manière que je ne peux pas ne pas écrire à propos de tout ça. » Et d'où le sens de ce « Mais il y a eu Fukushima », qui est la phrase de lui que j'ai mis en exergue de l'entretien qu'il a accordé pour la NRF et que j'ai reprise ensuite pour la mettre en tête de ce petit recueil « Retour à Tokyo », qui effectivement s'organise aussi autour de cet événement dimension littéraire, artistique, politique aussi, bien sûr, et humaine.
Je continue un petit peu sur Oe. Vous avez dit tout à l'heure que l'intérêt que vous lui portiez au départ n'était pas essentiellement politique, plutôt personnel, touchant plutôt un rapport à la catastrophe personnelle. Et comme vous l'avez rappelé hier aussi, il y a chez Oe cette articulation toujours entre catastrophe personnelle et catastrophe collective, puisque l'année de la naissance de son fils handicapé est aussi l'année où il s'est rendu pour la première fois à Hiroshima, voyage d'où il a tiré un recueil, il n'est paru que très récemment en France, mais au Japon en 65, Les notes de Hiroshima. C'est un livre avec lequel vous entretenez dans Retour à Tokyo un dialogue que vous mettez en évidence.
En fait, en vous écoutant, je me dis que je dois peut-être corriger la proposition que j'ai avancée de manière un peu hasardeuse plutôt. Quand je dis que mon intérêt n'était pas d'abord politique, bon, je crois que c'est exact malgré tout, mais en même temps, la dimension politique était présente dès le début, puisqu'il se trouve que donc, j'ai lu de manière très peu originale les œuvres de Kenzaburo Oe au moment où il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1994, c'est-à-dire très peu de temps avant la grande polémique qui a éclaté en France et qui a opposé Kenzaburo Oe à Claude Simon, notamment sur cette question de la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique. Et ce qui m'a conduit à intervenir d'abord dans des articles de revue et notamment dans l'Infini, où j'écrivais à l'époque, pour prendre le parti de Oe, parce que j'avais été quand même très choqué, disons, choqué, scandalisé, par la position prise par Claude Simon et par un certain nombre d'intellectuels français qui non seulement justifiaient la politique nucléaire française, bon, ça c'est une chose, mais qui surtout la justifiait au nom d'arguments qui étaient, à mon sens, erronés, et puis ça, ils étaient racistes, il faut bien le dire, sans forcément que ces écrivains ou ces intellectuels en aient conscience. C'est-à-dire la ligne d'argumentation de Claude Simon était quand même, Claude Simon, pour qui j'ai une grande admiration en tant qu'écrivain, mais la ligne d'argumentation de Claude Simon était très, très faible, et elle consistait en gros à dénier à Oe le droit de prendre une position opposée à celle de la France, dans la mesure où le Japon avait été coupable d'atrocités impérialistes, fascistes, etc. pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était quand même une manière curieuse de raisonner, parce que ça revenait à dénier à tous les Japonais le droit de prendre une position juste politiquement et moralement, sous prétexte que eux-mêmes ou leurs parents avaient été compromis dans l'impérialisme nippon. Et c'était d'autant plus aberrant ou ironique que sans que Simon, qui à mon avis ignorait complètement l'œuvre de Oe, le sache, Oe avait toujours été un
un adversaire très, très résolu de l'impérialisme japonais. Donc voilà, tout ça m'avait quand même beaucoup frappé, et donc ça m'avait amené à prendre malgré tout une position politique dans le débat, même si bien sûr c'était très, très, très marginal, parce qu'à l'époque, j'avais écrit quelques essais déjà, mais je n'avais écrit aucun roman, et voilà, personne ne me demandait vraiment mon avis sur la question, mais je me suis quand même autorisé à le donner, parce qu'il me semblait que j'avais des choses à dire qui étaient plus justes que celles qui s'écrivaient un peu partout à l'époque. Et donc, pour revenir à votre question, c'est ce que Oe explique dans Note de Hiroshima et dans la préface qu'il a accordée après à ce livre lorsqu'il a été réédité, c'est qu'effectivement ces deux événements, donc la naissance de son fils handicapé Ikari et le double bombardement nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki, ont fini par faire sens pour lui l'un avec l'autre, notamment dans la mesure où sous le coup donc de l'expérience, de l'épreuve qu'il venait de vivre avec sa femme, il a accepté presque un peu par hasard, on a l'impression à le lire, une invitation à se rendre à Hiroshima à l'époque, où se tenait, comme c'est toujours le cas, une manifestation, donc un congrès d'opposants au nucléaire et de soutien, j'imagine, au Hibakusha. Et donc c'est comme si finalement la détresse personnelle qu'il connaissait se réfléchissait au miroir de la détresse collective que le pays avait connue. Et tout ça va être développé chez lui par la suite, à partir d'une réflexion aussi sur le sort des handicapés, d'une part, et de ce qu'on appelle au Japon les hibakusha, c'est-à-dire les victimes irradiées de l'atome, qui sont victimes, non pas au même titre, mais de manière malgré tout comparable, dans la société japonaise, d'un même phénomène d'ostracisme. Il faut voir que l'œuvre littéraire d'Oe, elle prend du coup le parti justement de tous ceux qui ont été ou qui sont encore un peu discriminés dans la société japonaise.
À propos des hibakusha, justement, votre confrère, collègue, Michael Ferrier, dans le récit qu'il a fait paraître juste après Fukushima, qui s'intitule « Fukushima, récit d'un désastre », parle des réfugiés de Fukushima comme les nouveaux hibakusha, donc rappelant notamment que se pose à nouveau la question des mariages entre hibakusha et gens qui n'auraient pas été contaminés. Est-ce que vous partagez cette réflexion sur les enjeux à long terme de la catastrophe qui, bah, comme l'a rappelé hier d'ailleurs, n'est pas fini en fait, parce qu'on a tendance à déjà en parler au passé, mais c'est une catastrophe dont les conséquences se prolongent encore et va toucher des gens qui ne sont même pas encore nés, de fait.
Oui, il y a toute une polémique qui se développe depuis quelque temps autour de la manière dont il convient de parler de Fukushima, et notamment dans le cadre d'un colloque récent qu'il avait organisé et auquel il m'avait invité, Michael Ferrier, répondant d'ailleurs à un certain nombre de critiques qui, je pense, lui étaient adressées et étaient adressées plus généralement aux intellectuels, contestait le fait qu'on puisse parler d'un après Fukushima, parce que nous ne sommes pas dans l'après de Fukushima. C'est le propre des catastrophes nucléaires, explique-t-il à juste titre, c'est de produire des effets sur des siècles et peut-être même davantage encore. Et donc nous sommes à l'intérieur de Fukushima, nous sommes pendant Fukushima plutôt qu'après Fukushima. Alors pour ce qui est de la situation de ces nouveaux hibakusha, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire, moi, je voudrais quand même préciser que je me tiens dans une position un peu particulière. Je n'ai pas vraiment d'autorité pour parler de la situation. Simplement, je me suis trouvé en situation depuis maintenant presque une quinzaine d'années d'être sollicité très souvent pour parler du Japon, de la littérature japonaise, de la culture japonaise, etc. Mais je n'en suis absolument pas un spécialiste. Mais il se trouve que parmi les écrivains français d'aujourd'hui, et en tout cas à quelques exceptions près, je suis malgré tout quand même l'un de ceux qui connaissent, qui s'intéressent le plus, disons, à la littérature japonaise. Donc quand on me sollicite pour en parler, je le fais, mais en même temps je ne veux pas du tout porter un jugement ou une appréciation sur la situation au Japon maintenant, parce que je l'ignore en fait. Finalement je me contente de me faire le relais parce qu'il se tourne vers moi, ou l'intermédiaire, disons. parce qu'ils se tournent souvent vers moi, entre les intellectuels, les artistes japonais d'une part, et ceux qui souhaitent s'intéresser au Japon ici en France.
Justement, dans Retour à Tokyo, donc vous définissez, comme vous venez de le faire, votre position comme celle d'un témoin situé un peu dans le lointain, un relais indirect. Et vous reliez ça à ce que vous appelez dans l'article La cendre des cerisiers, une morale du témoignage. Et à l'occasion, vous rappelez, enfin, vous citez le texte de Primo Levi, Les naufragés et les rescapés, où Primo Levi fait une distinction entre ceux qui ont vécu la catastrophe jusque vraiment au bout de ses conséquences, c'est-à-dire ceux qui n'en ont pas réchappé finalement, et les rescapés qui ont malgré tout ce devoir de témoigner. Donc vous reliez ça à ce que vous appelez une morale du témoignage. Est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu ?
Oui, c'est une idée que j'ai développée il y a longtemps maintenant, dans un texte qui s'appelle Poétique du témoignage, qui a été repris, je crois, dans un recueil qui s'intitule Le roman réel. À partir donc de la lecture de Primo Levi, des naufragés et des rescapés, et par la suite, à partir d'une réflexion sur le témoignage que j'ai proposé dans la NRF et ailleurs, sur la base d'une lecture de Kierkegaard, puisque la notion de témoin chez Kierkegaard, et notamment dans les derniers textes de Kierkegaard, me semble particulièrement intéressante et aussi à mettre en relation avec ce que Primo Levi explique dans les naufragés et les rescapés. Disons qu'il s'agissait pour moi d'essayer de m'expliquer un peu, donc, d'une façon vraiment très générale, sur une question qui est une question à la fois d'éthique et de poétique, c'est-à-dire savoir qui a le droit de parler et de quoi, en fait. Hein. Parce que moi, je suis très ironique à l'égard d'un certain nombre d'écrivains français notamment, qui ne doutent absolument pas du droit qu'ils auraient à parler à la première personne de toutes les catastrophes que l'histoire a connues et dont eux, ils ont été totalement épargnés. Donc moi, quand je vois un roman écrit à la première personne par quelqu'un de mon âge, c'est-à-dire qui est né après la Seconde Guerre mondiale et qui raconte par exemple l'histoire de la Shoah comme s'il l'avait vécu, comme s'il en avait été lui-même l'une des victimes et comme s'il tirait de cette souffrance-là une sorte de prestige à la fois personnel et politique, je trouve ça risible et pour le dire un peu dégueulasse aussi. Donc, ce qui me semble admirable dans la démonstration de Primo Levi, c'est qu'il montre justement que le vrai témoin, c'est celui qu'il nomme donc le naufragé et qui se trouve empêché de témoigner justement par la souffrance qu'il a subie et qui lui est fatale. Donc ça conduit à développer donc toute une poétique et toute une éthique des témoignages qui insiste sur le fait que le témoignage est à la fois indispensable et impossible et que de toute manière il doit être coupable et inquiet. Voilà, donc nous sommes des rescapés, nous devons témoigner au nom des naufragés, mais nous ne pouvons le faire qu'à condition de proposer ce témoignage dans un cadre qui en souligne la nature coupable et inquiète, finalement. Et par exemple, dans tous mes romans, mais notamment dans Sarinagara, j'essaye de mettre en place un protocole poétique, justement, qui me permet à la fois de dire un certain nombre de choses, et notamment sur un événement que je n'ai pas vécu, bien sûr, qui est Nagasaki, mais d'une façon indirecte, qui justement me place justement, enfin je l'espère en tout cas, dans cette position de témoin, et me préserve donc de la faute que d'autres commettent, lorsqu'au contraire, il s'approprie en quelque sorte une expérience qui n'est pas la leur.
Justement, à propos de cette inquiétude et de ménager un protocole poétique qui permet de mettre en scène à la fois cette inquiétude et d'y répondre, je voudrais élargir un petit peu le propos, sortir un petit peu de Fukushima strictement parlé. Mais c'est encore le nucléaire qui va me permettre de rebondir, parce que vous parliez tout à l'heure de la polémique avec Simon. Vous avez notamment dans La beauté du contresens, il y a au moins deux articles là-dessus. Un qui s'appelle Les écrivains français n'ont rien lu à Hiroshima, je crois. Et dans lequel vous reprochez, en plus de ce que vous avez dit à Claude Simon, d'avoir une idée finalement très réductrice de la littérature japonaise, qui correspond un petit peu au cliché qu'on peut s'en faire de loin à partir des quelques auteurs qu'on a eus, et surtout de la lecture de ces quelques auteurs par des écrivains français d'une certaine époque, donc je pense très largement à la fin du 19e, début du 20e siècle. Vous reprochez à Claude Simon de ramener Oe, de le confondre même avec Mishima, et de penser que la littérature japonaise devrait se contenter de parler des thèmes auxquels nous, en France, nous l'avons réduite. Et contre ça, vous développez en fait tout un autre, enfin vous en appelez, c'est presque un manifeste, un autre rapport, une autre manière d'aborder la littérature japonaise que simplement de l'extérieur et de la réduire à ce que vous nommez l'expression d'une essence nationale supposée. Qui revient en fait à souscrire d'ailleurs à un mythe que certains Japonais ont eux-mêmes assuré la promotion et comment, qui est très idéologiquement très douteux. Et contre ça, donc, vous en appelez à ce que vous appelez une politique du contresens, vous parlez de beauté du contresens, donc c'est une formule empruntée à Proust. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu?
Oui, oui. C'est-à-dire, c'est effectivement quelque chose qui m'a frappé et qui vaut plus largement que dans le cas du seul Japon. C'est-à-dire, en fait, il y a une sorte d'ethnocentrisme tout à fait évident qui gouverne en Europe, en Occident, notre représentation des littératures de l'ailleurs. Et donc, autant qu'on considère qu'un écrivain occidental... Proust, Joyce, Faulkner, Kafka, etc. Encore que déjà avec Kafka et avec Joyce aussi, la question est plus compliquée. Mais enfin, plus l'écrivain Pascal Casanova, dans un essai qu'elle a consacré à la question, parle très bien de tout ça, plus un écrivain se situe sociologiquement près du cœur du système, au centre de ce qu'on appelle donc la République des lettres, plus il est censé exprimer dans son œuvre un point de vue qui est personnel. Et à l'inverse, pour les écrivains qui se situe géographiquement, idéologiquement, sociologiquement sur la périphérie, on considère que leur œuvre vaut non pas par le point de vue personnel qu'elle exprime, mais par le point de vue collectif en quelque sorte dont elle est le reflet. Autrement dit, quand Proust écrit, il parle au nom de Proust, mais quand un écrivain japonais, chinois, africain écrit, et bien finalement, tout se passe comme s'il écrivait non pas en son nom propre, mais au nom de la culture à laquelle il appartient. Donc c'est une vision extraordinairement réductionniste et finalement assez raciste, puisque elle dénie aux écrivains extra-occidentaux la faculté de produire une œuvre littéraire authentique, universelle, qui vaille donc au-delà du point de vue sociologique qu'elle exprime. Voilà, en fait c'est la question de l'exotisme. Et il me semble qu'on n'est pas sorti de l'exotisme, notamment quand je vois la plupart des livres de littérature qui s'écrivent en France aujourd'hui sur le Japon. Prenons par exemple Amélie Nothomb, si vous voulez, pour prendre l'exemple le plus évident. Ce sont des livres qui spéculent justement sur une vision très discutable du Japon et qui colportent avec eux tous les éléments d'une esthétique exotique, pour ne pas dire d'une pensée quasi raciste, quoi, qui vise à enfermer finalement le Japon et les Japonais dans une certaine image. Alors c'est très amusant parce que finalement les gens, la plupart des gens, lorsqu'ils lisent les romans qu'Amélie Nothomb consacre au Japon, ont l'impression d'être devant un livre très très réaliste. Ils disent ah oui, le Japon c'est vraiment comme ça, sans se rendre compte, ce qui est quand même aberrant, que les livres d'Amélie Nothomb ne leur semblent réalistes que dans la mesure où ils produisent à l'intention des lecteurs occidentaux une image du Japon qui est exactement conforme à leur horizon d'attente et à une certaine vision qu'un siècle et plus d'exotisme a construite. Alors bien sûr, on n'échappe jamais complètement à l'exotisme, et moi non plus, d'une certaine manière, non seulement je n'échappe pas à l'exotisme, mais je spécule un peu sur lui dans un livre comme Sarina Gara. Mais il y a quand même malgré tout une différence, si vous voulez, entre Roland Barthes et Amélie Nothomb. Il y a Amélie Nothomb qui joue de façon naïve ou pas, je n'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas la carte de l'exotisme, et au contraire quelqu'un comme Barthes qui lui va au contraire mettre en question l'exotisme à l'intérieur duquel, malgré tout, il pense le Japon dans l'Empire des Signes. Donc, j'ai essayé de définir effectivement un certain rapport qui me semble, sinon juste, du moins moins truqué à la littérature japonaise que celui qui, qui a cours chez les écrivains dont je parlais, et en mettant en exergue une idée qui appartient à Proust, qui est l'idée donc du contresens. Dans le Contre Sainte-Beuve, Proust écrit que tous les beaux livres sont écrits dans une langue étrangère, et que donc à partir du moment où on lit un beau livre, on commet nécessairement un contresens, mais peu importe, puisque tous les contresens qu'on commet dans un bon livre sont beaux. Donc je ne prétends pas dire la vérité de la littérature japonaise, parce que je ne la connais peut-être pas, je n'y ai pas forcément accès, mais en revanche, j'essaye de me servir de la littérature japonaise pour faire jaillir de cette lecture qui est la mienne quelque chose qui est peut-être beau et même vrai d'une certaine manière, mais il faudrait s'entendre sur le sens du mot vrai.
Et donc pour revenir à ce dont on parlait, vous parlez dans La beauté du contresens de l'image erronée donner la chance d'une beauté nouvelle, justement. Mmh. Et vous en appelez à quand vous dites la parole se met à errer merveilleusement. Alors j'aime beaucoup cette expression. Et plus loin, vous parlez des livres rêvés. Donc, vous rappelez notamment que le titre de la collection que vous avez inaugurée chez Cécile Defoe, Alf Bed, qui donc est emprunté à un mot qu'on trouve dans le Finnegan's Wake de Joyce, renvoie justement à Alf, donc l'alphabet, Bed, le lit, à ces livres qu'on rêve. Pour rejoindre votre réflexion, je parlais tout à l'heure de Michael Ferrier, qui lui parle de malentendu fécond. Il me semble que cette formule fait écho à justement Beauté du contresens. Dans la manière de rêver justement cette littérature japonaise avec tous les contresens, toutes les erreurs qu'on peut faire éventuellement, il y aurait cette donc à la fois ce protocole dont on parlait qui permet d'inquiéter un petit peu la pensée en même temps que malgré tout de la mener, et aussi donc la recherche d'un effort un effort de renouvellement qui serait cherché ailleurs que dans son propre fond. Et la plupart des essais dans La beauté du contresens qui portent sur des écrivains français qui aborderait le Japon autrement que Amélie Nothomb, par exemple, porte justement sur le décloisonnement en fait, que permet ce détour par le Japon. Donc vous parlez notamment de Pascal Quignard et vous dites que la forme de l'essai au fil du pinceau, ce qu'on appelle en japonais le zuitsu, lui a permis de sortir du carcan que la tradition romanesque européenne en fait. Est-ce que pour votre propre écriture, vous envisagez les choses comme ça aussi? C'est-à-dire, est-ce que ça vous a aider à concevoir votre propre entreprise romanesque, ce détour par le Japon?
Oui, ça, certainement. Et donc, il y a eu des précédents prestigieux. On peut penser à quelqu'un comme Paul Claudel, par exemple. Enfin, encore que pour lui, ce soit la Chine davantage que le Japon qui est compté, mais le Japon également. Bien Barthes, bien sûr, et plus près de nous, Pascal Quignard. Bon, moi, je me suis trouvé en situation un peu de penser tout cela et de le pratiquer à ma manière. Et je pense que ma propre contribution a relancé un petit peu l'intérêt que certains écrivains français pouvaient porter au Japon. Je pense qu'il le reconnaîtrait d'ailleurs lui-même. Quand Michael Ferrier parle de malentendu fécond, je pense que c'est une manière pour lui de faire référence à ce que j'ai dit précédemment sur cette poétique du contresens dont on parlait, puisqu'en fait il se trouve que c'est un peu grâce à lui que j'ai été amené à théoriser tout ça, puisque c'est la première fois que j'ai avancé cette idée. C'était donc il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, dans le cadre d'un colloque qu'il a organisé à Tokyo, justement sur les relations croisées qui existent entre la France et le Japon. Et après moi, après Ferrier, il y a eu également d'autres écrivains français qui se sont un peu inspirés de cette idée, que j'ai formulée à ma manière, mais que je n'ai pas inventée, puisque je crois qu'elle est déjà présente d'une façon ou d'une autre, en tout cas chez quelqu'un comme Roland Barthes, par exemple. Et en ce qui me concerne, oui, la référence à la littérature japonaise a été un instrument qui m'a conduit sans doute à repenser ma pratique du roman, essentiellement à travers un livre comme Sari Nagara, qui est là pour le coup. Et je pense que c'est pour ça que ce livre a une certaine valeur aux yeux de certains de ses lecteurs qui s'en sont inspirés après, ce livre est vraiment une expérience que j'ai conduite pour essayer d'apporter dans la littérature française des formes qui étaient celles de la littérature japonaise, et notamment le Watakushi Shosetsu, le roman du jeu, mais également le Niki, le Suihitsu. Voilà, donc toutes ces choses-là qui sont très connues des spécialistes de la littérature japonaise étaient et continuent à être très, très ignorées des auteurs et des lecteurs français. Et donc, si je peux revendiquer une certaine forme d'originalité, c'est sans doute avec Sari Nagara notamment, et avec les textes qui ont précédé et ceux qui ont suivi, d'avoir donc introduit dans la littérature française toutes ces références qui n'y existaient pas et qui peuvent produire des effets de renouvellement effectivement des formes littéraires françaises traditionnelles.
Alors le Niki, c'est juste pour préciser, c'est une forme de journal, on dirait, où se mélange la prose, le vers, enfin, les deux se répondant dans la continuité de la réflexion, donc avec ce décloisonnement de genre que nous traditionnellement on dissocie en Europe. Donc c'est également un journal qui mêle réflexion, observation, qui intègre souvent des citations, des références à d'autres œuvres. Et vous parliez donc du Watakushi Shosetsu, donc c'est Watashi Shosetsu selon la lecture des caractères, qui est on traduit ça par le roman du jeu. Et donc vous dites donc vous a aidé aussi à repenser une écriture autobiographique plus complexe, plus inquiète, puisqu'on en revient à ce mot, aussi plus irrésolue. Et dans La beauté du contresens, vous parlez aussi d'hétérographie en même temps que de Watakushi Shosetsu.
C'est-à-dire, on traduit Watakushi Shosetsu par roman du jeu. Bon, en vérité, c'est moi qui ai proposé qu'on le traduise ainsi, avec un certain nombre d'arrière-pensées. Parce que si on voulait proposer une traduction plus correcte, on dirait tout simplement roman personnel, voire roman autobiographique, voire roman du moi, plutôt que roman du jeu. Mais disons que l'usage que j'ai fait de cette catégorie japonaise, pour moi, avait un sens notamment dans la volonté, dans le désir que j'avais de me démarquer un peu de ce qu'on appelle en France l'autofiction, en essayant de déplacer un peu le propos. Donc on n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais disons que cette référence qui a été faite par moi au roman japonais, et plus particulièrement aux formes autobiographiques de la littérature japonaise, qu'elles soient poétiques ou romanesques, ça avait aussi un sens dans la mesure où ça me permettait de prendre mes distances à l'égard d'une certaine doxa concernant l'autofiction, à laquelle on voulait systématiquement ramener mes propres livres, alors que moi j'avais le sentiment qu'ils étaient assez différents de ce qu'on appelle en général l'autofiction. Et donc j'ai essayé d'introduire en allant les chercher au Japon des éléments qui permettent de penser autrement l'écriture du jeu. Donc notamment, et là encore c'est très influencé par Barthes, je le reconnais, l'idée qu'il existe ce que Barthes appelait une tierce forme, donc qui ne rentre dans aucune des catégories qui sont communément acceptées en Occident, donc ça n'est ni du roman, ni de la poésie, ni de l'essai, mais c'est un peu tout cela à la fois. Et précisément Sari Nagara, c'était une tentative pour essayer de faire tenir ensemble des formes littéraires qui en général sont dissociées dans la tradition occidentale, notamment le roman, l'essai et la poésie. Et puis dans la perspective de montrer que la visée verrait du roman du jeu, du Watakushi Shosetsu, enfin quel que soit le terme qu'on veut utiliser, la visée vraie du roman du jeu, ça n'est pas l'expression psychologique du moi, mais c'est quelque chose d'autre qui permet de relier, donc si on veut l'écriture autobiographique, à sa dimension qui est proprement poétique. C'est une écriture donc de l'hétérogène. Alors j'ai utilisé ce terme avec peu de succès parce qu'il y a il a été assez peu repris, peut-être qu'il était maladroit ou mal pensée, mais une pensée donc de l'hétérogène. Et l'hétérogène étant pour moi à entendre dans le sens notamment que Bataille donne à ce terme, ce qui le relie, donc ce terme, à d'autres notions qui sont plus familières, comme celle notamment d'impossible, d'expérience intérieure, d'extase. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le roman du jeu, tel que moi j'ai le sentiment de le pratiquer, et notamment, bien sûr, hein, dans la proximité de ce qu'on appelle l'autofiction aujourd'hui, mais également dans le souvenir des autres formes d'écriture personnelle qui ont existé dans la littérature française, notamment du côté des avant-gardes du XXe siècle et du surréalisme, et donc aussi en relation avec la référence au Japon que j'ai introduite. Donc cette écriture du jeu, elle vise, donc je me répète, elle vise non pas à l'expression d'une sorte de personnalité, disons, qui serait celle de l'auteur, mais à la mise en relation du sujet avec ce quelque chose qui a toujours été l'objet vrai de la littérature et de la poésie, c'est-à-dire le vrai, le beau, ou plutôt, parce que je préfère utiliser ces catégories-là, l'impossible au sens que donne à ce terme Georges Bataille dans l'expérience intérieure. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le fait de raconter ces petites histoires, ouais, même si les petites histoires qu'on raconte sont indispensables à l'expérience. Mais l'expérience, elle ouvre sur quelque chose d'universel où le sujet en fait s'accomplit dans la mesure même où il s'abolit, et ça renvoie du côté de la littérature japonaise notamment à tout ce qui existe dans cette littérature en rapport avec la tradition bouddhiste qui présente le moi comme une illusion, l'univers comme un lieu éphémère, d'impermanence. Voilà. Donc c'est aussi cette tonalité-là sans doute que j'ai introduite dans Sarinagara.
Effectivement, dans Sarinagara, comme dans Retour à Tokyo, vous parlez donc du noyau de nuit, selon une expression empruntée à Bataille, que vous rattachez à ce que vous venez de dire sur le réel en tant qu'il se révèle comme impossible.
Voilà.
Et cette expérience où finalement s'abolit la conscience.
Mais bon, c'est aussi Rousseau dans Les rêves du premier solitaire, c'est toute la tradition lyrique et romantique du 19e siècle, telle qu'elle aboutit à Rimbaud, mais aussi telle qu'on retrouve des traces chez Hugo, etc. Tout ça, c'est pour un peu, si vous voulez, ouvrir les fenêtres, parce que dans le contexte littéraire actuel, la réflexion sur ce qu'est le roman a tendance un peu à tourner en rond, et notamment autour d'une fascination pour l'autofiction en tant qu'elle serait une forme de néo-naturalisme de l'intime, qui moi ne me semble pas très intéressant. Donc aller chercher, rester fidèle à l'idée essentielle de l'autofiction, c'est-à-dire le fait que le roman doit être gagé sur l'expérience de celui qui l'écrit, et ça je le crois vraiment. Bon voilà, ça c'est quelque chose d'important, mais en même temps, pour ne pas rester enfermé dans cette vision-là de la littérature qui va devenir très étouffante, très limitée, et parfois un peu mesquine, donc il faut ouvrir les fenêtres, dire aller voir du côté de Bataille, aller voir du côté du surréalisme, et aller voir aussi du côté du Japon.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.